Merci.
Au départ d'un sujet assez restreint qui était la question des armements, je voudrais faire une présentation plus générale sur un autre sujet plus vaste dont on a déjà parlé, qui est le sujet de la guerre. Et je voudrais faire un avertissement, puisque la question a été débattue dans le précédent, avec le précédent panel. Je ne parlerai pas des questions de causalité, des questions scientifiques, des questions précises autour de la question de la guerre. Je parlerai de ce phénomène actuel qui est absolument fondamental, qui est la perception. La perception, c'est-à-dire la communication. Nous dépendons tous de la perception et de la communication, et elle crée des faits qui n'existent pas. Si nous n'en tenons pas compte, nous ne tenons pas compte de la réalité. C'est surtout de ça que je voudrais parler. Alors, pour en revenir à la question de la guerre, l'idée est que, plutôt que s'attacher à la question des armements et pour mettre cette question en situation générale, je m'attacherai au cadre de la question de la guerre qui permettra de mieux juger de ce qu'on peut attendre des armements. Dans la perspective des crises de l'environnement, qui se présentent en général comme des crises eschatologiques, nous serons confrontés à la perception d'une guerre que nous nommons la guerre de survivance. C'est le cadre dont je veux parler. Une guerre de survivance est un conflit suscité par une nécessité, protection, appropriation, etc., liée à un enjeu hors de notre contrôle. L'instabilité, la rareté ou l'extinction d'une ressource essentielle à notre système de civilisation et même à notre survie, et qu'il faut protéger ou même s'approprier, le plus souvent en intervenant dans des régions ou dans des pays politiquement ou militairement faibles. Le concept général de guerre, où va s'inscrire la guerre de survivance, a dramatiquement évolué depuis la fin de la guerre froide. Cette évolution a été successivement marquée par de grandes étapes. La première est la guerre du Golfe de 1990-91, la seconde, la guerre du Kosovo de 1999, et la troisième est en cours, c'est la guerre d'Irak. La guerre du Golfe impliquait une dimension morale affirmée. C'était la vertu morale du nouvel ordre mondial. La guerre du Kosovo a été présentée comme presque exclusivement morale. Mais elle fut une guerre inachevée dans la mesure où il n'y a pas eu de confrontation terrestre. La guerre en Irak, elle, est le modèle achevé de cette nouvelle forme de guerre. L'évolution du concept de guerre dont je parle s'est faite très rapidement. On est parti d'un concept relatif, ou ce qu'il restait de ce concept relatif, où la guerre était définie par de multiples références, où l'élément politique tenait une place importante, où la morale avait également sa place. Et on est passé à un concept absolu. La guerre définie par la seule morale. Ainsi, je ne dis pas qu'il y a eu moralisation de la guerre, je dis qu'il y a eu transformation de la guerre en un outil de la morale, en même temps qu'en une expression de la morale. Il va sans dire que c'est la morale occidentale dont je parle, bien entendu. La guerre a ainsi acquis, en théorie, une légitimité que je qualifierais de binaire, qui est une caractérisation mathématique du tout ou rien. Où la guerre correspond à son inspirateur et manipulateur moral, elle est absolument légitime, où elle ne lui correspond pas, et sa légitimité tend vers zéro. Ce type de guerre met en cause et détruit tous les attributs classiques, essentiellement politiques, de la légitimité et de l'ordre, telle la souveraineté. Si elle ne les remplace pas par une morale conforme aux faits, donc légitime et stabilisatrice, elle débouche sur le désordre et l'illégitimité absolue. Bien sûr, je parle ici de la représentation de la chose. Les arrière-pensées, les calculs, les desseins secrets, les manœuvres subsistent. Mais la présentation a changé complètement. La puissance extraordinaire de la communication fait de cette présentation effectivement une nouvelle substance de la guerre. La présentation de l'apparence devient une représentation absolue. On a vu cette évolution entre les trois guerres qu'on a citées. L'Irak est pour l'instant le modèle achevé. Après des tentatives d'explication ponctuelles, la plaisanterie des armes de destruction massive, toutes ces choses-là. La présentation est devenue la représentation absolue d'une guerre pour une morale absolue. La chute d'un dictateur, l'installation de la démocratie universelle, des droits de l'homme, etc., en sont les expressions concrètes. L'évidence de la réalité, elle-même fortement répercutée par les communications, a démontré absolument le contraire de cette représentation. L'Irak a été et est le théâtre de l'arbitraire, de la violence insensée, sans moindre sens politique, du désordre, de l'imposture, de l'illégalité, et cela d'une façon évidente, avec comme cause première l'action occidentale, c'est-à-dire l'action américaniste. Rien ne soutient l'idée morale de cette guerre. Sa légitimité est proche de zéro. Les guerres de survivance, ce sera pire encore. L'Occident se trouvera face à une réalité insupportable, des conflits pour la survivance, alors que la modernité que l'Occident prétend représenter est un état de civilisation avancée qui a résolu par définition ontologique la question de la survivance. L'Occident nie implicitement que la question de la survivance puisse exister encore selon les normes de la modernité, parce que cela serait une contradiction interne insupportable. Plus encore, ces guerres seront faites par un système, le nôtre, pour des matières en extinction, dont l'extinction est causée par les excès ontologiques de notre système. Ces guerres seraient faites pour se saisir de matières en diminution, dont la consommation effrénée s'apparente à une démarche suicidaire, si l'on en considère les conséquences. Nous saisirons et protégerons des réserves en extension pour en accélérer l'extinction. Non, je voulais dire, nous saisirons et protégerons des réserves en extinction pour en accélérer encore l'extinction. C'est un divorce radical entre la vocation morale de la guerre et sa réalité, les guerres devenant à la fois des guerres nihilistes et absurdes, par conséquent des guerres de désordre anthropique et non pas des guerres pour établir l'ordre moral. Leur légitimité est effectivement au niveau zéro. Quelles seront les conséquences pour nous qui entreprendrions ces guerres? Essentiellement beaucoup plus psychologiques que militaires, parce que sans véritable effet militaire, parce que notre puissance interdit notre défaite et que nos méthodes et nos conceptions interdisent notre victoire. Nous nous en tenons au cas des Américains, qui est l'archétype de notre propos. L'exemple de l'Irak et de l'Afghanistan est effrayant au niveau de la psychologie. Les suicides chez les vétérans rentrés de la guerre, les vétérans américains, sont autour de 6000 suicides en moyenne annuelle en 2006 et 2007, en accroissement par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'elles sont très largement supérieures aux pertes au feu, ce qui est un cas sans précédent. Ces guerres causent plus de pertes indirectement par leurs effets individuels psychologiques hors de la guerre que par l'action du feu de l'ennemi. La Rand Corporation vient de montrer que 300 000 vétérans souffrent de troubles psychologiques graves, PTSD ou Post-Traumatic Stress Disorder, et 320 000 autres de troubles psychologiques consécutifs à des blessures. Cela fait 40% du nombre de vétérans, 1,6 million, et l'on ne parle que des cas recensés. Au feu, les suicides sont en constante augmentation, 115 en 2007, et plus de 20 000 soldats prennent officiellement des drogues antidépressives, simplement pour tenir psychologiquement. Plus qu'un problème militaire grave, c'est une catastrophe sociale qui menace essentiellement les sociétés des pays qui lancent ces guerres. Cette menace concerne aussi bien le tissu social de ces pays ayant lancé la guerre que la stabilité de leur régime. La cause de cette catastrophe psychologique est l'isolement total où sont tenues ces forces par rapport à l'environnement culturel et humain des pays où elles opèrent. Littéralement, ces troupes sont victimes de la cruauté dont elles sont elles-mêmes les actrices, parce qu'elles la subissent, mais surtout parce qu'elles la provoquent et la propagent. Leur isolement, ajouté à l'illégitimité de la guerre, transforme leur psychologie et les charge d'une culpabilité insupportable. La puissance des communications, qui est le facteur essentiel de la puissance aujourd'hui et qui agit dans tous les sens, y compris ceux qui sont défavorables aux politiques officielles, joue un rôle de chambre d'écho qui aggrave et multiplie le phénomène. Pourquoi cet isolement qui implique une déshumanisation de la guerre? D'abord, la doctrine de protection des forces, qui passe par une protection excessive, qui est nécessairement un isolement, visible même dans l'équipement et le comportement individuel des forces, qui implique un premier isolement opérationnel. Il existe aussi un isolement moral, sous forme d'un apartheid moral. La guerre étant perçue malgré tout comme exclusivement morale, l'adversaire étant diabolisé d'une façon absolue depuis l'attaque terroriste 9-11, idée du terrorisme comme représentation du mal, il convient d'isoler les troupes d'un adversaire dont la diabolisation est étendue à tout l'environnement culturel et humain. L'un des fondements d'une guerre légitime, qui est aussi d'entretenir une certaine estime pour l'adversaire, ou du moins de reconnaître son existence pour ménager plus tard l'établissement de la paix, est totalement supprimé. L'isolement des forces renforce et complète l'illégitimité quasiment ontologique de cette guerre. Le résultat est une guerre sans fin, où les notions de victoire et de défaite deviennent absurdes, puisque l'adversaire diabolisé et quasiment impossible à identifier, puisqu'il comprend son environnement civil, culturel et humain, ne pourrait être vaincu que par sa disparition complète. Dans ces conditions, les responsables de la guerre, nous, subissant la dramatique contradiction entre guerre morale et réalité, deviennent psychologiquement malades. Il y a toutes les chances pour que ce cas se multiplie et s'aggrave avec la guerre de survivance et menace ce qui reste d'équilibre à notre civilisation. La raison est l'illégitimité absolue de ces guerres, la contradiction également absolue entre leur caractère de survivance et la représentation morale qui en sera faite. Le désordre intérieur, chez nous en plus du pays envahi, et l'effondrement psychologique en seront les principales conséquences. Maintenant, dans la dernière partie, je vais essayer de mettre dans la logique du cas spécifique de la guerre, de mettre dans la logique de cette description de la guerre que je viens de vous faire, le cas spécifique des armements et des technologies. Comment lutter contre cette situation au niveau des armées et des armements? En suivant deux orientations qui sont plus que militaires, des orientations politiques et psychologiques des armements, en luttant contre le désordre que nos méthodes actuelles impliquent. Le caractère éthique d'un armement doit se mesurer aujourd'hui à sa capacité à réduire le désordre. Les technologies de l'armement doivent être jugées en technologies de désordre, technologies déstructurantes, et technologies d'ordre, technologies structurantes. La première voie consiste à modifier de fond en comble l'approche opérationnelle de ces guerres. Cela suppose l'abandon ou l'atténuation de technologies ou d'équipements favorisant l'isolement de nos forces. La déshumanisation de nos forces. Les technologies utilisées à cet égard sont des technologies déstructurantes de désordre, parce qu'elles contribuent objectivement à la déshumanisation de ces guerres de survivance. Il faut ramener nos forces à des buts d'intégration dans la culture et l'environnement des conflits. Il s'agit moins de conquérir les cœurs et les esprits, en général après les avoir américanisés, que de les comprendre et de les respecter sans se dissimuler à eux. D'autre part, et c'est la deuxième voie, il faut accentuer les missions qu'on devrait qualifier de missions de souveraineté, qui renforcent le facteur d'ordre qui est la souveraineté des entités nationales. Ces missions concernent des données constantes de l'existence des structures souveraines, le contrôle de l'espace national, la protection des voies de communication, etc. Ces missions peu agressives concourent à une structuration de l'ordre international contre le désordre des guerres de survivance. Dans ce cas, l'appel à des technologies avancées est justifié parce que ces technologies deviennent des technologies de souveraineté, des technologies structurantes, des technologies d'ordre par définition. En conclusion, je noterai d'une façon plus générale que tout cela ne résout pas le problème ontologique de notre civilisation qui s'est placée elle-même devant la perspective de devoir défendre des moyens et des ressources qu'elle juge être en réduction accélérée ou en situation d'insécurité et qui le sont éventuellement à cause de l'activité même de cette civilisation. Il s'agit bien sûr d'un autre sujet, d'une autre crise, d'une bien plus vaste crise. C'est la crise systémique fondamentale de notre civilisation, la crise centrale de notre civilisation privée de sens et qui cherche à survivre en affirmant une morale que toute la réalité met en question comme inappropriée, voire faussaire. Le conflit suprême est entre l'affirmation désespérée de notre civilisation et la réalité du monde, y compris pour nous-mêmes, premiers complices et premières victimes de cette contradiction. Je vous remercie.